Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Si Herman Kafka avait reçu la lettre de son fils, l'aurait-il posée sur la table de nuit sans la lire, comme il avait coutume de le faire lorsqu'il recevait un ouvrage de son rejeton? Est-ce la raison pour laquelle Franz jugea inutile de la lui remettre? Peut-être. On peut aussi penser que, comme Kafka l'écrivit à son ami Max Brod à propos de son roman Le Château, la lettre n'existait que pour être écrite, pas pour être lue. En mars 1966, Dominique Rollin choisissait pour l'émission Le Livre de Chevet de nous faire entendre de longs passages de la lettre au père de Franz Kafka.
Le Livre de Chevet. Jean-Vincent Bréchignac vous propose Le Livre de Chevet de Dominique Rollin. Ce soir, Lettre au père de Franz Kafka. Traduction de Marthe Robert.
Ce qui me donne encore un bon aperçu de notre innocence réciproque, c'est le heurt qui s'est produit entre nous quelques 20 ans plus tard, dans des circonstances tout à fait différentes et qui, s'il était atroce en tant que fait, comportait néanmoins infiniment moins de danger. Y avait-il en effet, dans l'homme de 36 ans que j'étais alors, quelque chose qui pût encore être endommagé? Je pense ici au petit discours que tu m'as tenu un jour, à l'époque des journées mouvementées qui ont suivi l'annonce de mon dernier projet de mariage. Tu m'as dit à peu près « Je suppose qu'elle a mis quelques corsages, choisis avec recherche, comme les Juifs de Prague s'entendent à le faire, et là-dessus, naturellement, tu as décidé de l'épouser, et ceci le plus vite possible, dans une semaine, demain, aujourd'hui. Je ne te comprends pas, tu es un homme adulte, tu vis dans une ville, et tu ne trouves pas d'autre solution que d'épouser sur le champ la première femme venue. N'y a-t-il vraiment pas d'autre possibilité? Si tu as peur de le faire toi-même, j'irai la voir avec toi. » Tu as dit cela en développant davantage et plus clairement, mais je ne me rappelle plus les détails. Peut-être avais-je aussi un peu de brouillard devant les yeux. Il me semble presque que c'était maman qui m'intéressait le plus, car bien qu'elle fût entièrement d'accord avec toi, elle prit néanmoins quelque chose sur la table pour pouvoir l'emporter et quitter la pièce. Il ne t'est guère arrivé de m'humilier plus profondément par tes paroles. Tu ne m'as jamais montré ton mépris plus clairement. Quand tu me tenais le même langage, 20 ans auparavant, on aurait même pu voir un peu de respect dans tes yeux pour ce garçon, précocement mûri, que tu jugeais déjà capable d'être introduit, sans plus de détour, dans la vie. Aujourd'hui, un pareil respect ne pourrait qu'aggraver le mépris, car l'adolescent s'est trouvé arrêté dans son élan. Il ne te paraît pas plus riche d'une seule expérience, mais de 20 ans plus pitoyable. Le choix que je faisais d'une jeune fille n'avait aucun sens pour toi. Tu avais toujours comprimé ma faculté de décision, inconsciemment, et tu croyais maintenant, inconsciemment, savoir ce qu'elle valait. Tu ignorais tout de la libération que je tentais d'accomplir par d'autres voies. Tu devais donc nécessairement ignorer le cours des idées qui m'avaient conduit à ce mariage. Il te fallait essayer de les deviner et, conformément au jugement d'ensemble que tu portais sur moi, tu devinais dans le sens le plus ignoble, le plus grossier, le plus ridicule. Et tu n'hésitais pas un seul instant à me le dire dans le langage correspondant. La honte que tu m'infligeais ainsi n'était rien pour toi en comparaison de celle que j'aurais infligée à ton nom en contractant ce mariage. Maintenant, il t'est loisible de me répondre bien des choses à cet égard, et c'est d'ailleurs ce que tu as fait. Tu ne pouvais guère respecter ma décision alors que j'ai rompu par 2 fois mes fiançailles avec F et renoué 2 fois, Alors que je vous ai, maman et toi, inutilement traînés à Berlin pour les fiançailles, et ainsi de suite. Tout cela est vrai, mais comment en suis-je arrivé là? Le principe de mes deux projets de mariage était tout à fait correct. Fonder un foyer, me rendre indépendant, c'est même une idée qui était sympathique. Sauf que les choses se passaient en réalité comme dans ce jeu d'enfant où l'un tient la main de l'autre, la serre même, et s'écrie en même temps « Mais va-t'en donc, pourquoi ne pars-tu pas ?» Ce qui, dans notre cas, se compliquait encore de la sincérité avec laquelle tu disais depuis toujours « Va-t'en donc !» puisque depuis toujours, c'est uniquement en vertu de ta nature que tu me tiens, ou plus exactement, que tu me maintiens en ton pouvoir. Mon choix des deux jeunes filles a été le fait du hasard, mais s'est trouvé extraordinairement juste. Que tu puisses me croire capable, moi, l'être anxieux, hésitant, soupçonneux, de me décider d'un seul coup à me marier, parce que j'ai été ravie par un corsage, est encore un signe de ta totale incompréhension. Ces deux mariages seraient devenus bien plus des mariages de raison, pour autant que cette expression implique que j'ai consacré toute ma faculté de pensée à en former le projet jour et nuit, la première fois pendant des années, la seconde fois pendant des mois. Ni l'une ni l'autre des jeunes filles ne m'a déçue. Je les ai déçues toutes les deux. Mon jugement sur elles est exactement le même qu'à l'époque où je voulais les épouser. Ce n'est pas non plus qu'en faisant ma seconde tentative, j'ai négligé les expériences de la première, que j'ai donc agi avec légèreté. Les deux cas étaient entièrement différents. Dans le deuxième, bien plus riche en perspectives d'ailleurs, c'était justement l'expérience du passé qui pouvait me donner de l'espoir. Mais je ne veux pas rappeler les détails ici. S'il en est ainsi, pourquoi ne me suis-je pas mariée? Là, comme partout, il y avait les obstacles particuliers, mais la vie consiste précisément à savoir les accepter. L'obstacle essentiel, malheureusement indépendant de chaque cas isolé, c'est que je suis de toute évidence spirituellement inapte au mariage. Cela se traduit par le fait qu'à l'instant même où je décide de me marier, je ne peux plus dormir, j'ai la tête en feu jour et nuit, ce n'est plus une vie, je suis désespérément ballottée de tous côtés. Ce ne sont pas à proprement parler les soucis qui provoquent cet état, bien que, répondant à mon humeur sombre et à ma méticulosité, d'innombrables soucis ne laissent pas non plus de s'y glisser. Mais ils ne constituent pas l'élément décisif. Ils ne font que parfaire l'ouvrage comme les vers sur le cadavre. Le coup définitif m'est porté par autre chose. Et c'est l'oppression générale qui naît de mon angoisse, de ma faiblesse, de mon mépris de moi-même. Je vais essayer de serrer l'explication de plus près. À l'occasion de mes tentatives de mariage, mes relations avec toi sont devenues le lieu de rencontre où deux éléments, en apparence opposés, se sont heurtés plus violemment que partout ailleurs. Le mariage fournit assurément la garantie de l'indépendance et de la plus rigoureuse libération de soi-même. J'aurais une famille, ce qui est, d'après moi, ce qu'on peut atteindre de plus élevé et, par conséquent, ce que tu as atteint de plus élevé toi-même. Je serais ton égal. Ce qu'il y a entre nous de tyrannie, de honte ancienne et éternellement nouvelle n'appartiendrait plus désormais qu'à l'histoire. Ce serait évidemment un beau conte de fées, mais voilà justement le point douteux. C'est trop, on ne peut pas espérer en obtenir autant. Il en va comme pour un prisonnier qui a l'intention de s'évader, ce qui serait peut-être réalisable, mais projette aussi, et ceci en même temps, de transformer la prison en château de plaisance à son propre usage. Mais s'il veut s'évader, il ne peut pas entreprendre la transformation, et s'il l'entreprend, il ne peut pas s'évader. Mes relations avec toi étant particulièrement malheureuses, je ne puis conquérir mon indépendance que par un acte ayant le moins de rapport possible avec toi. Le mariage est l'acte le plus grand, celui qui garantit l'indépendance la plus respectable, mais c'est aussi celui qui est le plus étroitement lié à toi. Il y a quelque chose de fou à vouloir sortir de là, et chacune de mes tentatives est presque punie de folie. C'est du reste partiellement cette relation étroite avec toi qui m'attire vers le mariage. Si je me fais une si belle image de l'égalité qui s'ensuivrait entre nous et que tu es en mesure de comprendre mieux qu'aucune autre, c'est parce qu'alors je pourrais devenir un fils libre, reconnaissant, innocent et droit, tandis que tu cesserais d'être opprimé et deviendrais un père sans tyrannie, compatissant, heureux. Mais pour en arriver là, il faudrait précisément que tout ce qui a eu lieu fût nul et non avenu, c'est-à-dire que notre existence elle-même fût biffée d'un trait. Tel que nous sommes, le mariage m'est interdit parce qu'il est ton domaine le plus personnel. Il m'arrive d'imaginer la carte de la terre déployée et de te voir étendue transversalement sur toute sa surface. Et j'ai l'impression que seules peuvent me convenir pour vivre les contrées que tu ne recouvres pas ou celles qui ne sont pas à ta portée. Étant donné la représentation que j'ai de ta grandeur, ces contrées ne sont ni nombreuses, ni très consolantes, et surtout, le mariage ne se trouve pas parmi elles. À elle seule, cette comparaison suffit à prouver que je ne prétends nullement que ton exemple m'aurait chassé du mariage comme il m'a chassé du magasin, bien au contraire, en dépit de toute ressemblance lointaine. Votre union se présentait à moi comme une union modèle à bien des égards, modèle par la fidélité, l'aide réciproque et le nombre d'enfants. Même quand les enfants devenus grands se mirent de plus en plus à troubler la paix, votre union en tant que telle n'en fut pas touchée. C'est peut-être même cet exemple qui fut à l'origine de ma haute idée du mariage. Si mon désir de me marier était impuissant, cela s'explique par d'autres causes. Elle tenait à la nature de tes relations avec tes enfants, ce dont il s'agit précisément tout au long de cette lettre.
Dominique Rollin a lu ce soir un extrait de « Lettre au père » de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert. C'était « Le livre de chevet » de Dominique Rollin, une émission de Jean-Vincent Bréchignac, assistante de production Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 mars 1966. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site francecultture.fr à la page des nuits.